Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous, c'est chouette que vous soyez là. Bienvenue dans le 15e numéro de Focus Store, l'avant-dernier de la saison, me dit-on. Alors profitez-en tant qu'on est encore là, puisqu'on ne sait pas trop ce que la vie nous réserve. Qui est là cette semaine autour de la table pour évoquer les objets culturels les plus hype du moment? Il y a, comme toujours, une belle brochette halal de journalistes du magazine Focus Vif. Il y a le rédac chef, Laurent Raphaël. Il y a le spécialiste du cinéma, Nicolas Clément.
Voilà.
Isaline Parisis, qui est plutôt calée en bouquin, et Guy Verstraeten, avec une nouvelle coiffure, félicitations, plutôt journaliste télé. On parle aujourd'hui du film Le Passé, du hippie de Fauve, de la mini-série de Bletchley Circle et du dernier bouquin de John Irving. Premier sujet du jour, un film qui a fait sensation à Cannes et qui était d'ailleurs pressenti pour la Palme d'Or, qui est reparti avec celle de la meilleure actrice pour Bérénice Bejo, mais aussi avec le prix du jury œcuménique, un prix qu'on oublie trop souvent, malheureusement. C'est le premier film français du réalisateur iranien Asghar Farhadi, qui avait breaké comme un fou en 2011 avec Une séparation, un film à Oscar, à César, à Golden Globe, à Ours d'argent et à plein d'autres choses encore. Ici, on change complètement de décor avec Le Passé qui se déroule en banlieue parisienne autour de la finalisation du divorce de Marie avec Ahmad, lequel rentre d'Iran spécialement pour l'occasion et vient passer quelques jours chez elle. Il s'imprègne de sa nouvelle vie, de ses difficultés avec les enfants qu'elle a eus avec son compagnon précédent et il découvre son nouveau fiancé dont elle est enceinte. Voici quelques images du passé.
Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi.
Ta mère, elle a le droit de vivre avec qui elle veut.
Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler.
Ma mère t'a rien dit.
Attends.
Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad?
Elle a l'air d'être au courant de tout.
Je veux pas qu'ils soient ensemble.
Tu penses que ça dépend de toi et moi?
Ça commence comme un drame sentimental, ça se poursuit comme un thriller parce qu'aux 2 tiers du film, une révélation très douloureuse vient tout changer. C'est admirablement construit, c'est tendu de bout en bout, assez éprouvant, assez émouvant. C'est un tout grand film à mes yeux, mais j'ai l'impression que ce n'est pas exactement le cas au tien, Nicolas. Je ne sais pas pourquoi. Je te juge peut-être sans savoir.
C'est comme souvent. Je note d'abord que tu es là, sans doute la première journaliste qui doit avoir dit d'Asghar Farhadi qu'il a breaké comme un fou. Mais bon, voilà, c'est très bien. Non, en fait, je trouve que, comme dans Une séparation, parce que tu fais lien aussi, je trouve le scénario du film vraiment assez formidable. Je trouve ça super bien écrit. Et comme tu disais, donc on part d'une sorte de drame petit bourgeois, familial, pour virer dans une sorte d'enquête à l'intensité quasi policière, comme ça, qui charrie pas mal de questionnements quasi, je sais pas moi, existentiels, on va dire. Je trouve qu'Asghar Farhadi, en fait, n'a pas son pareil pour remuer un peu toute la merde qu'on a à l'intérieur, comme ça. Que ce soit dans les couples, dans les familles, tout ce qui est jalousie, non-dit, ressentiment, mensonge. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort dans cette histoire. Et je trouve que le discours du film, si on peut parler vraiment d'un discours, est super moderne et super fort aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit en gros qu'il n'y a pas de vérité unique, quoi, qu'il y a une sorte de semi-vérité et que les vérités sont un peu fluctuantes d'une personne à une autre. Et c'est un peu tout le sens de la fin du film qu'on ne va pas révéler. Quand un personnage dit qu'on ne peut jamais rien affirmer certainement, et il y a un plan qui dure très longtemps à la fin, comme le dernier plan d'une séparation.
Ouais, d'ailleurs, je suis en train de me prendre un frisson à chaque instant d'évocation.
Je vois tes poils se lever. Et donc ça c'est super fort, et ce plan qui est hyper ouvert et tout ça à la fin, je trouve ça vraiment très très fort. Et bizarrement, pourtant, ce scénario assez formidable, je trouve qu'il prend jamais vraiment, enfin contrairement à toi, alors peut-être à ce moment-là, prend jamais vraiment cher à l'écran. J'ai eu le sentiment que les personnages déclamaient un peu leur texte, qu'on était dans un truc un peu théâtralisant, comme ça.
Oui, c'est la critique que j'entends souvent de ceux qui n'aiment pas le film. Moi, je ne trouve pas, mais...
Il y a une différence avec Une séparation, il manque un petit peu ce lien, ce qui est un peu explosif.
On ne sait pas, Une séparation, puisqu'on ne parle pas personne. Voilà. Donc,
Non, mais enfin, dans la mise en scène, il y a quand même une espèce d'éblouissement dans Une séparation, de tension, qui ici est beaucoup plus intériorisée. et qui s'exprimait davantage dans une séparation, et même dans À propos d'Eli, qui était son film précédent, qui était déjà, qui annonçait déjà un peu une séparation dans la manière de traiter des sujets de montrer l'Iran sous une autre facette. Et ici, moi, c'était la petite réserve que j'avais aussi, c'est le côté un peu trop intériorisé parfois, qui du coup rendait parfois la chose un peu hermétique, je trouve.
Mais moi, j'ai eu l'impression de voir un peu du théâtre filmé par moment, avec des acteurs un peu forcés de déclamer dans une sorte de huis clos, puisque c'est très fermé comme ça. Et effectivement, pas de génie au niveau de la mise en scène, et un côté un peu hystérique aussi, un peu psychodrame comme ça, un peu forcé.
C'est Bernice Bejo qui t'a agacé.
Alors je sais pas, je trouve effectivement que le prix d'interprétation, enfin je le comprends pas très bien, ce prix d'interprétation, j'étais pas à Cannes, j'ai pas vu les films, donc je veux pas faire semblant de dire ils auraient dû, mais c'est vrai que il me semble que le scénario en tout cas est vachement plus intéressant que l'interprétation de Bernice Bejo. Et alors ces manquements là je sais pas à quoi on peut les attribuer, mais c'est vrai que peut-être que Faraday ne tourne pas en français, peut-être que le scénario est tellement fort que le médium ciné n'amène rien. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu ici. Mmh. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'illustration qu'un grand scénario ne donne pas spécialement un grand film.
On s'est précipité sur le fait qu'il évite les pièges habituels du réalisateur étranger qui vient filmer à Paris, comme Woody Allen et d'autres, et qui filme, du coup, le Louvre,
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et lui, il s'est mis en banlieue, une pharmacie, un pressing.
Une gare RER. Voilà.
C'est une histoire qui n'est pas une histoire française, c'est une histoire qui est tournée en France, mais qui est complètement universelle. Donc,
mais on sent bien en même temps cette ambiance de province française. Enfin, il y a un truc, enfin, c'est pas vraiment la province, mais on est quand même un peu loin de
Paris. Oui, un peu cette classe moyenne.
Cette maison, je trouve qu'elle est vraiment.
Bordélique.
On sent ça quand même.
Ça, c'est assez bien rendu.
Oui, complètement.
Mais comme tu disais, je pense le fait aussi que l'acteur qui joue Ahmad soit un acteur iranien, je pense qu'il doit y avoir un petit problème par rapport à ça. C'est que.
Il a appris le français en 2 mois pour les besoins du rôle.
Mais tu sens qu'il y a un rythme, il y a une fluidité qui n'est pas vraiment là, quoi. Donc, comme tu parlais de déclamation, ça donne cette impression-là. Ça donne l'impression d'un acteur qui ne parle pas vraiment dans sa langue.
Moi, ça ne m'a pas dérangé parce qu'il est étranger. Il vient, on sait qu'il a un passé iranien et donc forcément la maîtrise de la langue française n'est pas parfaite. Et son rôle est tellement essentiel.
C'est pas une question de maîtrise de la langue, c'est plutôt une question de rythme dans les répliques, en fait, dans les dialogues. Moi, c'est plutôt ça que j'ai ressenti. C'est une question de.
Mais c'est parce qu'il est tout à fait atypique. Moi, il m'a fait un peu penser à Nanni Moretti dans le personnage qui s'interroge en permanence et qui, du coup, vient illustrer le propos du film, qui est de dire que c'est pas le bien contre le mal, c'est le bien contre le bien. Chaque personnage a de bonnes intentions, a des bonnes raisons d'agir comme il agit, et on se rend compte qu'on est dans une impasse. Et c'est tout ce qui provoque, j'ai l'impression, un peu la déprime et la névrose des personnages. C'est que même quand ils veulent bien agir, ils provoquent des catastrophes. Et c'est ce personnage-là qui vient ouvrir un peu les portes.
Tout à fait.
C'est par lui que les choses circulent beaucoup, finalement.
Tout à fait.
Je trouve que le gros enjeu du film, c'est quand même... Ouais, je trouve que c'est vraiment le cinéaste. Enfin, j'ai vu qu'une séparation après, mais de la responsabilité, quoi, de la culpabilité. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, donc un élément déclencheur qui laisse infuser comme ça dans son film avec... un examen des conséquences dans des cercles de plus en plus vastes et avec des personnages de plus en plus importants. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un dézoom comme ça, successif, qui donne beaucoup d'ampleur et d'écho à ça. Je pense que c'est un tel cinéaste des conséquences, en fait, que là, il se prive même de nous montrer l'élément déclencheur du film. C'est-à-dire que cette femme est en train de mourir quelque part. On se demande un peu, finalement, la grande question du film, c'est la faute à qui ?
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit... parce que je trouvais que c'était déjà un peu spoilé, c'est que la femme de Tahar Rahim a fait une tentative de suicide et est à l'hôpital. Et c'est un élément central.
Et je trouve que là, il y a quelque chose de central et terriblement humain, c'est-à-dire de voir comment les personnages, en fait, comment chacun essaye un peu de se dédouaner de cette culpabilité-là. Et du coup, cette culpabilité qui passe de main en main, finalement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, avec la petite réserve que j'ai du coup, qui est quelque chose d'un peu presque systématique dans le film, du coup. C'est-à-dire que chacun va devoir endosser sa part de responsabilité et on tombe dans quelque chose d'un peu, sans doute, machinal, où on se dit effectivement, ils vont tous, à un moment donné, intervenir là-dedans.
Une sorte de catalogue.
Et peut-être que c'est ça un petit peu qui m'a gênée dans le côté dramaturgie. Voilà. Je pense qu'après, il a vraiment un sens, Faraday, de la dramaturgie. Je trouve que le début est complètement fascinant. On sent cet homme qui revient, on sent l'histoire qu'ils ont vécue. Quoi. On sent qu'il y a 4 ans qui s'est passé.
Et très vite, une tension palpable.
Exactement. Quoi. Cette scène du début est vraiment très forte. Et dans des bêtes scènes, par exemple, du quotidien, quoi. Je pense à cette scène où Ahmad est en train de réparer l'évier dans la maison et Samir, le nouvel ami de Marie, qui débarque.
Ce concours de bites autour de... ouais, de la tuyauterie.
Et oui, voilà, c'est un peu ça, mais je trouve qu'il y a...
C'est, une... c'est un peu ça, non.
Mais je trouve qu'il y a, une puissance comme ça qui est charriée par, cette scène-là.
Très subtile, assez... quoi.
Ouais, vraiment. Très rentrée, de nouveau, comme on disait. Quoi. Il y a quelque chose de très...
Il manque peut-être juste la, fulgurance de, d'une séparation et cet, entre guillemets, exotisme qui nous révélait l'Iran...
plus large, politique aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ici, c'est vraiment un drame psychologique qui pourrait avoir lieu partout, qu'on pourrait transposer partout. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on dise un petit mot de Pauline Burlet, qui est cette jeune comédienne montoise.
Je la trouve vraiment très, très bien sur la, première moitié du film. Et puis, après, elle pleure tout le temps. À un moment, je me suis dit...
Ouais, dès le début, je trouve qu'elle est un peu mono-expressive. Je trouve qu'elle a l'air de sortir d'un film de vampire et comme ça, un peu, figée. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle avait un jeu particulièrement.
Bah, moi, je trouve qu'elle a quand même une présence. Et on a l'impression quand même que le film est un peu.
Elle a un visage incroyable.
Elle a un visage complètement pictural. On a l'impression qu'elle sort d'un Vermeer, cette fille. Elle prend la lumière.
Elle prend ce visage-là, mais elle n'en change pas jusqu'à la deuxième partie.
Ce qui peut être un petit peu. Ce qui peut être un côté un peu. Voilà, qu'on retrouve chez les adolescents parfois, un peu, je trouve.
Non, c'est vrai.
Mais ce côté un peu boudeur excessif, à mon
avis. C'était rapport au personnage, j'ai l'impression. Effectivement, elle claque les portes, elle traîne les pieds, elle rentre pas à la maison. J'ai pas l'impression qu'elle le fait mal, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on lui fait jouer une partition.
Ouais, je trouve que ça fait un peu écho au jeu de l'enfant Fouad, qui du début à la fin a la même tête, même expression.
Et je trouve mais il a 4 ans aussi.
Non, il a pas 4 ans.
Oui,
5 ans.
5-6 ans. Mais voilà, ça n'empêche qu'un enfant a quand même plusieurs modes d'expression. Ici, on a dû lui insister pour qu'il tienne ce rôle-là. Je trouve que c'est un petit peu, ça tire un peu en longueur. Il aurait pu un peu varier davantage.
Absolument d'accord.
Si on mettait une petite cotation sur 10... Non, juste avant, je vais vous signaler que dans nos pages, Louis Danvers a mis 5 étoiles sur 5 à ce film.
Il avait déjà mis 5 à une séparation, donc il est cohérent.
Et il parle d'un drame intimiste captivant comme un thriller. Voilà, plutôt bien vu. Moi, je lui mettrais 9 sur 10 à ce film.
Moi, je mettrais 8 pour le scénario, mais plutôt 6 pour le film.
Voilà. Bah, moi, 7. J'aurais mis 8 à une séparation, même 9. Ouais. Donc 7 ici.
J'ai pas compris du tout ta cote. Je vais mettre 8. 7. 7, c'est bien, 7.
Oui.
Mais 8.
Plutôt. Oui, c'est mieux.
8 est mieux.
Et moi, 7 aussi, pour les petits défauts qu'on a relevés avec talent.
On parlait donc du passé, le premier film français du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Le disque du jour, c'est un hippie, un maxi, comme on dit en français, celui de Fauve, un collectif parisien de jeunes garçons qui racontent leur vie sur des arrangements plutôt luxuriants. Le disque s'appelle Bizarre. Il se présente comme ceci, Fauve, sur son site. Les membres de Fauve sont liés par une conception partagée de la vie et des gens. Fauve baise les rapports humains baisés, défait le défaitisme, hait la haine et a honte de la honte. Fauve adhère de façon inébranlable à la croyance selon laquelle l'amour peut rafler la mise dans ce monde bizarre. Fauve est désespérément optimiste. Fin de citation. Je vous propose donc d'écouter un petit extrait des Nuits Fauves, le tout premier single de Fauve.
Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux. Mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos sauvagement. Ceux qui portent leurs membres à bout de bras et qui disent qu'un cul ça s'attrape ou ça n'est pas. De quoi t'as peur? Alors dis-leur que ton machin est contrarié, que parfois quand une fille te parle, tu sens tes billes se rétracter. Depuis que cartonne au box-office la grande idée selon laquelle la compassion s'est dépassée.
Et en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le groupe fait parler de lui, en bien beaucoup, en mal beaucoup aussi. Certains lui reprochent un prétendu côté branchouille, alors que j'y vois plutôt une tentative réjouissante et presque naïve de réenchanter une génération. J'ai rarement vu un truc aussi clivant que tu aimes ou que tu détestes. Moi, j'adore en tout cas, et je regrette d'avoir mis à l'ordre du jour parce que j'ai l'impression que ce groupe va se faire complètement déglinguer. Guy, dis-moi tout.
Oui, il faut valoir. Ce qui est la première image qui m'est venue en écoutant ça, j'en ai parlé au cher Nicolas Clément ici présent, c'est quand tu as des acteurs qui font du théâtre de rue, par exemple. Tu marches en rue.
C'est puis ton tout d'un expérience coup, personnelle, là, que tu nous
puis
racontes.
Tout d'un coup,
tu
as des acteurs qui déclament un texte de manière tout à fait sincère devant toi, mais ça te met super mal à l'aise et tu as envie de partir. C'est un peu ça que j'ai ressenti.
C'est pas mal quand même.
C'est un peu ça que j'ai ressenti à l'écoute de Fauve. Parce qu'il y a une. T'as l'impression qu'il y a une sincérité, donc qu'ils mettent un peu tout, mais ça me met mal à l'aise, ça me gêne un peu.
C'est quoi, dans le contenu ou quoi des textes,
dans la déclamation.
Dans la déclamation. C'est dans le côté un peu
mais romantique. Naturel, quoi. Il met son cœur sur la table.
Oui, c'est ça. Même dans le côté, je vais m'ouvrir les veines devant toi. Enfin, à l'envers, ça me parle pas toujours. Pas tellement. Mais pour autant, j'aime beaucoup la musique. Je trouve que la musique est très chouette.
Oui, ce qui est quand même déjà essentiel.
C'est quand même très sympa. Ouais. Après, mais voilà, cette manière de parler sur les chansons et ne pas chanter les textes, ça me crispe parfois. Pas toujours, mais ça me crispe. Par exemple, Paul Ecker, on parle
de. Pourtant, ça n'a pas tous les tics ou du rap ou du slam habituel. C'est quand même assez frais comme manière de.
C'est une proposition.
Mais c'est une proposition.
Ça ne ressemble à rien.
Ça ne ressemble à rien.
À rien de connu, c'est ça que je veux dire.
Ça ne ressemble à rien d'autre. Mais par exemple, Paul Ecker, j'aime vraiment bien cette chanson. Je l'aime vraiment bien.
Tu peux nous la chanter un peu ?
Mais il faudrait que je fasse. Je peux monter sur la table éventuellement et le faire, mais. Ou pas.
Ça demande trop d'investissement émotionnel.
Ouais. Moi, je peux pas déclamer comme ça. Je peux pas.
Couper les. C'est une des seules chansons où il chante vraiment, en fait.
Je pense que c'est ça qui fait. Je crois que le refrain est vraiment sympa, etc. Mais voilà, ça c'est un petit peu mon avis.
Bon, allez, Nico, fais-toi plaisir.
Non,
allez, vas-y.
Ça va faire plaisir, mais c'est vrai que musicalement, je trouve que.
C'est toi qui aimais Arnaud Florent Didier très fort.
Ouais.
Ça t'a pas fait un peu penser à ça ?
Non, mais en fait, c'est. Non. Pardon, mais c'est pas très loin de Florent Didier ou d'un groupe comme Mendelssohn ou de groupes français comme ça qui osent un peu effectivement mettre leur trip sur la table. Et je pense que leur démarche est sincère. Musicalement, comme disait Guy, je trouve ça pas mal, sauf que c'est tout le temps le même plan. Enfin, chaque morceau, c'est un peu le même plan. C'est quasi interchangeable, j'ai l'impression, au niveau des musiques. Mais le problème, c'est vrai que c'est un peu quand le tête-à-claque commence à l'ouvrir.
Tête-à-claque, tout de suite. C'est pas du tout une tête-à-claque.
Et au niveau du contenu, j'ai l'impression qu'il parle, oui. Il parle d'amour comme un ado, il parle de sexe comme un puceau, et on a juste envie de lui botter le cul, lui dire va vivre des trucs et reviens dans 10 ans quand t'as des choses à raconter, parce que ça frise vraiment le nez en
dessous. Parce que le texte de la plupart des chansons que tu peux entendre volent beaucoup plus haut. Moi, j'ai pas été vraiment choqué par le contenu des textes.
Moi, je trouve exactement la même chose. Quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a.
C'est pas choquant,
vous êtes des vieux routards de la vie sentimentale. Vous avez tout vécu, vous êtes revenu de tout, mais pour les gens normaux comme moi.
Ouais, moi je trouve qu'il y a une certaine fraîcheur comme ça à balancer, un côté néo-romantique, que je trouve plutôt réussi parce que ça, c'est mêlé avec un côté punk dans la manière de balancer, d'être assez cash. C'est un mélange de mots crus, mais avec une naïveté dans les projets. Et je trouve que ce mélange reflète assez bien, j'ai l'impression, cette génération Y des trentenaires qui savent pas très bien sur quel pied danser, qui rêvent, qui ont des utopies, mais qui en même temps sont dans des délires trash dans la vie de tous les jours, quoi.
Mais avec ceci de différent, je trouve qu'on n'est pas ici dans une exaltation du côté noir pour noir, quoi. Au contraire,
tout à fait. Il y a des utopies. On essaye de remettre de l'optimisme, mais en se rendant bien compte qu'on va se prendre le mur parce que ils sont incapables de mener un projet complètement à son terme et d'avoir peut-être les responsabilités.
Ça, c'est ton interprétation. Moi, je trouve pas que ce soit le cas.
Oui, mais il y a des chansons plus cynique entre guillemets, qui reconnaissent que ça marchera pas. Enfin, c'est un peu, on joue sur les deux côtés. Il y a l'amour chevaleresque quasiment d'un côté, et puis l'amour ravageur de l'autre, qui est improbable, avec ce regret des tendances porno et autres, et tout ce qu'on nous sert aujourd'hui, quoi.
Mais moi, tu parles de néo-romantisme, et je trouve qu'il y a un côté, mais le mauvais côté, quoi. Le côté un peu pose de poète maudit, incompris. Tout me brûle, mais ça me fout des cicatrices.
Pas d'accord.
Oui, c'est un peu la vie, la vie est dure, l'amour ça fait mal, on a envie de lui dire effectivement, on va vivre un coup, quoi. Moi je pense que
je trouve que c'est le contraire.
Moi je pense que ça m'aurait beaucoup parlé à 15 ans, et ce côté aussi un peu frondeur, rebelle, on fout un doigt à la société.
Voilà, 12 ans et demi.
Il y a un côté Louis Garrel dans les films de Christophe Loré, comme ça, je sais pas si.
Oh, c'est affreux. Tout ce que tu dis est affreux. Tout ce que vous dites est affreux par Laurent.
C'est un peu bizarre, enfin, on a envie de dire un peu. Voilà quoi.
Oui, mais Louis Garrel dans un film de Christophe Honoré, c'est affreux. Tu te rends compte de ce que tu dis?
Franchement, c'est pas. Moi, j'aime assez bien certains films de Christophe Honoré. Il y en a d'autres qui me crispent.
Oui, je sais. Mais Louis Garrel, quoi.
Louis Garrel, il a un côté poseur, super brancho parisien romantique comme ça, que je retrouve assez dans cette proposition-ci, avec ce que ça comporte parfois de réussite et parfois de. Et quand c'est raté, c'est vraiment raté et ça met vraiment mal à l'aise.
Mais déjà, que tu disais musicalement, c'est déjà pas raté, parce que c'est une sorte d'électropop qui fait un peu penser au Marquis de Sade pour les vieux de la vieille. Et donc,
mais ils ont trouvé une bonne formule et puis après, ils la déclinent sur 6 chansons. Je trouve au niveau musical, en tout cas.
Ouais, c'est sûr, c'est un EP, donc c'est encore que un embryon d'album. Mais
il y a une ligne de guitare claire et puis un coup de grosse caisse qui fait le beat. Et puis
comme à l'époque, quoi, on se contentait de ça. Quoi. Donc, vous avez des chansons parfois très, très évidentes avec des paroles qui n'étaient pas beaucoup plus spirituelles ou beaucoup plus.
C'est vrai, peut-être quand ils chantent en français, on a peut-être plus d'attentes par rapport aux paroles.
Mais moi, je te rejoins. Parce que tout est mis sur les paroles. Enfin, tout est quand même mis sur les paroles.
Il chante ou il parle tout le temps, quoi.
Et puis sa voix est quand même super forte, super. Il y a un truc presque un pleurant, comme ça, un peu suppliant. Et puis ce tutoiement, quand même omniprésent. Moi, ça m'a quand même carrément dérangé.
Mais c'est parce qu'il raconte une histoire. Il tutoie pas le public. Si c'était le public, ce serait affreux.
Il tutoie dans chaque chanson. Il y a un côté. Oui, je crois qu'il s'accroche un peu. Une voix qui agrippe un peu comme un noyé, comme ça.
C'est un John révolté. Il va pas vous voyer, quoi. Il va quand même pas vous voir.
Ce qui est intéressant, parce que vous parlez du côté un peu frimeur, branchouille, et que moi, avec lequel j'ai parfois du mal dans certains artistes français qui jouent ces cartes-là, ici, bon, ils ont quand même, ils ont pas de label, ils ont refusé jusqu'ici toutes les propositions en or qui étaient sur la table, et ils s'inscrivent dans un projet un peu communautaire, avec des vidéastes et tout, et ils ont ouvert apparemment sur leur site la possibilité à chacun de contribuer à cette espèce de projet.
Oui, parce que le collectif est ouvert.
Rien que par rapport à ça, je me dis, tiens, c'est une démarche intéressante qui s'inscrit un petit peu. Ils ont l'air sincères, je trouve, dans la démarche.
Moi, je crois qu'ils sont sincères, et moi, c'est là que je te rejoins. Et j'aime bien aussi le côté romantique, on y va, on est assez positif et tout ça. Et c'est vrai que là où on peut avoir des réticences qui sont évidemment forcément arbitraires, mais c'est sur la manière, quoi. Mmh. Effectivement, dans ce truc collectif, quand ils ont sorti l'EP, je crois qu'ils ont organisé un barbecue à Paris avec des saucisses knacky et des bouteilles de Tropico. Et forcément, ils font des invites sur les réseaux sociaux en verlan et ils ont trop kiffé l'après-midi et tout ça. Enfin, c'est toute la passion d'exprimer le truc.
Mais comme dans leur musique, soulant, quoi, qui est un truc quand même un peu linéaire, premier degré, il n'y a pas beaucoup de mystère ou beaucoup de.
Ouais, mais ça, c'est très générationnel quand même. Ouais. C'est des éléments, c'est à la fois les mauvais côtés de cette génération un petit peu. Je trouve qu'ils les synthétisent bien. J'y adhère pas en tant que philosophie, mais je trouve que c'est bien rendu. J'ai ressenti un petit peu cette vibration, ces doutes et tout ça de cette génération.
Et en même temps, ils traduisent aussi une forme de crudité. Et des fois, je trouve qu'ils tombent aussi dans des trucs, enfin, il y a des sortes d'aphorismes, ils disent des trucs du style, l'important c'est pas ce que tu choisis, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu as choisi d'être. Et moi j'ai l'impression, des fois, d'entendre mon vieux prof de catéchisme, quoi. C'est une sorte de ramassis d'ineptie prépubère, comme ça.
C'est facile de sourire que d'être heureux, enfin, il y a des trucs comme ça, c'est né. Après, parfois.
Mais c'est pas vrai.
Il y a un peu.
C'est des trucs qui mettent un peu sur des banderoles, comme ça, on va aller manifester.
C'est plus facile de sourire que d'être heureux, ça.
Et en ça, je trouve que c'est un peu les nouveaux Saez, en fait. Hein. C'est un peu hier, le jeune fils à papa révolté dans son loft avait Saez, et aujourd'hui, il a fauve, quoi. Bon, voilà.
Mais, bon. Non, j'arrête.
Désolé.
Bon, allez, sur 10, 8 pour le hippie. Il y a encore d'autres chansons qui ne sont pas dessus, mais qui sont déjà sur les réseaux sociaux, les internets, qui sont très bien.
Qui sont mieux, même, je trouve.
Oui. Je ne comprends pas pourquoi ils n'y sont pas. Et je mettrais même 9 pour le concert de Fauve au Botanique. C'était au lieu du Bota. Et j'aime pas quand tu me regardes comme ça, tu te moques. Non, c'était vraiment très très puissant. Et c'était à la rotonde et les yeux de la plupart des gens dans le public étaient humides en sortant.
Comme les tiens maintenant. S'ils te voyaient vraiment faux, ils seraient vraiment contents d'avoir quelqu'un qui les défend comme ça.
Et je dois donner ma carte.
Oui,
je vais mettre 3. Nique sa mère, faux.
4.
Je vais mettre 6. Je trouve que les textes sont pas mal et la musique est bien. Mais ça me saoule, quoi.
Allez, 7 pour les artistes de rue. D'accord.
Bon, ça s'appelait Bizarre et c'était le premier hippie de Fauve.
We can stop him before he kills again. You treat the killings like a code. Keep at it till we break it. But how many more girls will die before the police catch him?
They're never gonna find him.
No, we are.
C'est une mini-série anglaise dont j'avais envie qu'on parle aujourd'hui, de Bletchley Circle. Elle est produite pour la chaîne ITV et vient donc juste d'être diffusée aux États-Unis sur PBS. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. 3 épisodes pour cette première saison qui prend place en 1952 et qui s'articule autour de 4 femmes qui ont joué un rôle à la fois modeste et très très important dans la victoire des Alliés pendant la guerre. Elles déchiffraient des messages cryptés des Allemands en collaboration avec les renseignements britanniques. Une mission top secrète, évidemment, dont elles n'ont jamais pu parler. parler autour d'elles quand elles ont repris le cours de leur vie, chacune de son côté. Et puis un jour, l'une d'entre elles, Suzanne, est interpellée par une série de meurtres de jeunes femmes du côté de Londres et est absolument persuadée qu'elle suit une sorte de schéma, un truc codifié qu'il suffirait de décrypter pour retrouver le tueur. C'est alors que les anciennes collègues reprennent du service toutes ensemble, dans l'ombre, sans l'appui de la police. C'est donc une sorte de thriller à l'anglaise, dans une reconstitution d'époque au cordeau, avec des gueules pas possibles, hein, comme celle de l'héroïne, qui est jouée par une certaine Anna Maxwell Martin. C'est parfois un petit peu poussif, mais c'est un divertissement que j'ai trouvé plutôt agréable, confortable, sympathique. Et toi, Isaline ?
J'allais dire honnête, quoi. Oui, je pense que j'ai pas de grief particulier ni d'affection particulière pour cette série. Effectivement, l'ambiance est chouette, quoi. On est un peu dans ce Londres d'après-guerre. Voilà, je trouve que les acteurs sont bien, Suzanne en particulier. Après, je me suis un peu mise dans cette série comme avec le même bonheur que je lisais Le Club des Cinq quand j'étais petite, quoi, d'Enid Blyton, avec chacune des quatre a un peu un don. Il y en a une qui mémorise super bien, il y en a une qui est mathématicienne, voilà. Un bon Agatha Christie, en fait, en somme. Alors, on sait bien, effectivement, c'est assez confortable. Enfin, on a l'impression de plonger là-dedans comme dans une pantoufle. On sait bien que tout sera élucidé à la fin dans les règles, que la ligne de partage entre bon et méchant sera bien respectée, avec le meurtrier sordide, ses enquêtrices bien intentionnées, un mari qui bat sa femme. Enfin, voilà, il y a
comme ça. Parce que dans le portrait des femmes, il y a quand même du relief. Chacune a une situation assez moderne. Je trouve assez intéressant qu'on ne retrouverait pas dans les grands classiques d'Agatha Christie et autres.
Oui, c'est vrai, c'est pas spécialement fouillé. Après, il faut bien admettre que la série, voilà, il n'y a que 3 épisodes, donc c'est pas non plus sur une échelle. Après, c'est une série effectivement qui a un peu le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que ça n'innove pas du tout. C'est une série qui se contente un peu de reprendre un peu des motifs très célèbres des romans policiers, avec ce principe, par exemple, du seul contre tous, hein, cette femme qui croit connaître la vérité, qui n'arrive pas à le communiquer. Ce qui est un petit peu sans doute innovant, mais c'est à peine esquissé, c'est que ce motif du seul contre tous est un peu reconduit par une lutte un peu féministe, puisque c'est vrai que ces femmes ont eu un rôle absolument clé dans la guerre et qu'elles se sont battues sans les hommes. Et qu'est-ce qu'il en advient aujourd'hui alors qu'elles sont mères, femmes, comment est-ce qu'elles peuvent retrouver cette espèce de rôle dans la société assez exceptionnelle, alors que leurs maris sont les premiers finalement qui sont les obstacles de ça. C'est sans doute pas... une série qui abuse de notre patience, effectivement, parce que tout est résolu après 3 épisodes, et c'est donc pas une série non plus qui a beaucoup d'épaisseur.
Plus qu'une série, c'est presque un épisode en 3 parties.
Ouais, voilà. C'est un film, quoi. Voilà.
Un téléfilm. En
fait. Ouais, mais c'est un téléfilm. Oui. 3 fois 45 minutes, en plus, c'est tout à fait quelque chose de tout à fait
bizarre. C'est Faraday, hein. Que tu trouves un peu long.
3 fois 4h45.
C'est une très bonne série.
Je trouve que vraiment, dans ce qu'ils allaient nous dire, vraiment, dans la série, ce qui est assez intéressant, c'est l'aspect féministe, en fait. C'est vraiment ça, parce que les maris sont effectivement des obstacles. Les maris sont ceux qui sont à la maison et qui regardent un peu leur femme partir et qui voudraient avoir une vie rangée, finalement, et en voyant leur femme partir à l'aventure. Donc, on retourne quand même, il y a quand même un petit retournement par rapport à ça qui est assez intéressant.
C'est toute la misogynie de l'époque, hein,
les hommes sont décrits comme, effectivement, que ce soit le commissaire ou les différents maris, comme des obstacles. Mm-hmm. C'est assez intéressant.
Il y a beaucoup de profondeur sur ce discours-là, mais c'est là.
Non, mais ils ont quand même le sale rôle, quoi. Soit ils ne croient pas, comme le flic, soit ils tapent dessus, soit ils la considèrent comme une.
Oui, voilà.
Ou les meurtriers.
Tout à fait.
Comme des moins que rien.
Mais moi, je trouvais ça plutôt frais d'avoir 4 femmes ensemble, 4 femmes qui ne sont pas des bombasses. Qui sont,
oui, c'est légèrement désuet.
Voilà, il y a quelque chose d'assez frais là-dedans. Ouais. Et je pense que c'est assez difficile d'en dire du mal de cette mini-série, mais c'est pas bouleversant non plus.
C'est une fois de plus une série anglaise qui regarde vers le passé. Mm-hmm. On a eu The Hour, dont on a dit le plus grand bien, Downton Abbey, tout ça. J'ai l'impression que les Anglais se spécialisent un peu dans les séries historiques comme ça, et ils le font très bien, quoi.
Nico.
Oui, bah, je rejoins tout.
Ouais, tu t'en fous.
Non. Bah, c'est vrai que comme il me semble, c'est un peu l'avis général. Ça m'a laissé un peu. Je trouve ça ni bon ni mauvais. C'est un téléfilm en images. C'est très Bibliothèque Rose comme ça. Avec juste ce truc effectivement où j'ai l'impression juste qu'on féminise les codes. Donc quand elles doivent par exemple tracer un trajet sur un plan,
c'est avec du rouge à lèvres.
Quand elles doivent regoupiller une grenade, c'est avec une épingle à cheveux.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai l'impression que tout est un peu fait pour qu'on dise ah sacrée bonne femme quand même. Ou alors ces mecs-là, ils auraient quand même dû les écouter, quoi.
Miss Marple.
Il y a ce côté un peu qui peut être un peu agaçant,
je pense, sur la longueur.
Oui, voilà. C'est gentil.
Mais l'intrigue en elle-même n'est pas révolutionnaire non plus. On se dit pas.
Mais le meurtrier est quand même vachement charismatique, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Il tue bien, quoi, en tout cas. C'est un bon tueur.
C'est un bon tueur. Et ce côté, ce petit rire un peu crispant, non, je vois personne.
Donc, voilà, c'est le chanteur de Fauve, d'ailleurs.
Bon, voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur The Bletchley Circle. Une petite cotation sur 10, je lui mets 7. Oui, 6 ou 7.
Oui, moi j'allais dire 5 ou 6.
Ouais, moi aussi, 5 ou 6.
Ouais. Plutôt 7.
Moi 7 pour l'après-midi. Parfait,
mais
avec le thé.
Mais exactement, les petits biscuits. C'est vraiment génial. Je vais vous dire que la série a été renouvelée, parce qu'elle a bien marché, ouais, pour une seconde saison. Non, 4. On lui en a offert un gratuit. Donc voilà, on est contents. Le dernier sujet de cette émission, c'est un livre, c'est ceci. À moi seul, bien des personnages, le dernier, John Irving. John Irving, c'est le type qui a écrit notamment Le Monde selon Garp et L'œuvre de Dieu, La part du diable, deux monuments de la littérature américaine. Il raconte ici les tribulations amoureuses d'un jeune garçon qui va devenir grand et même vieux au fur et à mesure des pages. Un garçon qui craint les erreurs d'aiguillage amoureux et qui va commencer à s'enticher de la bibliothécaire du coin, une femme très attractive qui dissimule un grand secret quand même. C'est donc un livre sur l'identité sexuelle, une sorte de plongée dans un univers LGBT que personnellement je connais assez mal et que j'ai trouvé assez fascinant. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long pour ce que ça raconte, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas à proprement parler vraiment d'histoire, plus une succession, une série d'aventures, de mésaventures, au gré des relations intimes du héros. Laurent, le chef, toi, tu as plutôt été convaincu par ce bouquin.
Alors oui, je suis plutôt convaincu parce qu'on retrouve justement la patte du Irving qu'on a aimé, du Monde selon Garp, comme tu disais, d'Une prière pour Owen, dont il reprend d'ailleurs la figure du narrateur, du personnage qui raconte son histoire à la première personne. Et d'ailleurs, je crois que John Irving lui-même reconnaît qu'il en a fait une espèce de cousin du Johnny d'Une prière pour Owen. Et moi, c'est l'art du récit essentiellement qui m'a marqué, qui me marquait déjà dans Le Monde selon Garp. Et donc, c'est cette capacité à embrasser des périodes assez longues, à suivre des personnages dans leur complexité, leur évolution psychologique, voire morphologique au fil du temps. Et il arrive à tenir comme ça plusieurs fers au feu en même temps. On a l'impression parfois qu'il va se perdre et il arrive toujours à retomber sur ses pattes. Et tous les personnages, tous les détails ont un sens et arrivent finalement par nourrir ce torrent. Et alors, ce qui est intéressant aussi pour l'anecdote, c'est que, et comme depuis toujours, John Irving se nourrit de sa propre expérience. On dirait qu'il s'amuse à mettre comme ça des petites énigmes de livre en livre. Notamment, Vienne, par exemple, ici, lui-même a passé une année à Vienne, il avait eu une bourse à l'époque. Il y a toujours, très souvent, un personnage qui était un écrivain, toute la question du sexe qui n'est pas toujours le sexe orthodoxe. Ben voilà, c'est des thématiques comme ça qui reviennent. Il faut savoir que, pour prendre des personnages, son propre grand-père se déguisait en femme. Voilà. Et donc, mais ce sont des références qui sont assez superficielles. Parce que il change malgré tout chaque fois le moule, il s'amuse à se nourrir de son expérience, mais au fond, c'est chaque fois des thématiques très différentes. Dans Une prière pour Owen, c'était plutôt une critique assez politique de l'attitude de Reagan, etc., de ces années-là. Ici, on est beaucoup plus sur la question, comme tu disais, de l'identité sexuelle, et c'est abordé avec une audace assez bluffante, puisqu'on part depuis les années 50 jusqu'aux années SIDA, et on découvre des univers qu'on devine à peine, et il arrive à les rendre réalistes sous un vernis assez burlesque parfois, qui fait passer les pires trucs, nous les font avaler avec beaucoup de plaisir, parce qu'il y a cet art du récit derrière.
Bon, Isaline, spécialiste des pages bouquins,
Mais moi, je pense que c'est un grand roman d'apprentissage, comme les Américains, sans doute, seuls peuvent en faire. Je trouve que c'est un grand roman de formation, d'ascension. Hein, et je trouve que le génie d'Irving ici, c'est de reconduire cette espèce de quête un peu sentimentale, amoureuse, sexuelle, par la quête de cette vocation d'écrivain. Puisqu'il le dit, en fait, les deux sont très, très liés. Le désir d'écrire est très, très lié au désir amoureux, en fait, chez ce personnage. Et je trouve ça assez brillant, en fait, parce que c'est cette place quand même c'est cette place du fantasme, de la fiction, en fait, dans la vie. Cette idée quand même que la fiction et le fantasme sont peut-être plus forts que la vraie vie.
Je pense que dans le monde selon Garp aussi, ouais. Puisque la mère était écrivain et le personnage Garp était écrivain aussi.
Ah oui, voilà.
Bah, donc ça a toujours été très présent.
Et puis je pense traversé d'influences théâtrales,
de
récits, de pièces.
Essentiellement Shakespeare qui sont les fils rouges.
Mais c'est un grand roman sur le travestissement, effectivement, il y a quand même de ça.
Jusqu'à l'écriture, oui, dit que l'écriture elle-même, c'est un travestissement du réel.
Et donc, oui, c'est cette part de fiction qui est vraiment fort importante. Mmh. Avec, en plus, je trouve, un personnage absolument clé. Hein, t'en as parlé, de la bibliothécaire, qui est en fait le nœud du récit. Puisque,
là, on ne va pas spoiler.
On ne va pas spoiler, mais il se fait que Bill va nourrir pour elle un désir, un double désir, hein, donc effectivement intellectuel et sexuel. Et que sans doute, ça restera comme un fantasme inassouvi dans sa vie. Cette espèce d'amour interdit qu'il aura pour elle. Et ça parle de ça beaucoup, en fait, ce livre. Voilà, qu'est-ce que c'est d'être hanté par un fantasme toute sa vie? Qu'est-ce que c'est de... Je crois que c'est un grand roman sur le désir, en fait, et sur l'obsession amoureuse. Et je pense qu'il y a quelque chose de très long, de très bavard, parfois. Et on peut lui reprocher, sans doute, à Irving, de nous tartiner quand même beaucoup les mêmes motifs. Hein. Je pense, par exemple, il pique le soutien-gorge de sa copine Hélène, qui met dans son lit. Je pense qu'à peu près... effectivement, il en parle beaucoup, il le décrit toujours de la même manière. Alors on se dit, bon, effectivement, ça va, quoi, on a compris. Et enfin, on se dit, bah oui, mais en fait, c'est ça, l'obsession. C'est, ouais. c'est quand même une traduction.
Typiquement chez les ados, enfin,
effectivement,
ça peut être
quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire de grandir avec tous ces désirs qui partent dans tous les sens, dans le Vermont, dans les années 50, effectivement, avec très peu d'objets dans lesquels on peut mettre des fantasmes. Et je pense qu'il y a quelque chose là d'assez fort et qui reste, du coup, après la lecture, dans ce grand roman de l'obsession, en fait.
C'est marrant comment on s'écoute religieusement comme ça. Oui, ce bouquin a quelque chose de précieux.
C'est la littérature qui amène à ça. Je sais pas. Moi, si je peux intervenir, ouais, du coup, oui. Je demande la parole. Donc ouais, moi, je rejoins assez ce que vous dites et tout. J'aurais juste 2-3 réserves. Donc je trouve que c'est un très bon roman d'apprentissage qui se lit vraiment, qui prend du temps. Je veux dire, hein, c'est long, etc. Mais je veux dire, qui se lit vraiment de manière quasi compulsive. Il y a une construction où il y a des allers-retours sur la ligne du temps et ça enrichit vraiment le récit, ça le dynamise. C'est pas du tout foutraque, quoi. C'est très cohérent, comme ça, c'est vraiment très bien. Il y a un truc où j'ai un peu du mal et tu le sous-entendais un peu, c'est cette idée de travestissement qui est un peu le clou sur lequel il vient tout le temps taper. Comme le bouquin fonctionne sur une série de révélations, en fait, sur les personnages, à un moment, moi, j'ai trouvé qu'on anticipait toutes les révélations. Parce que les révélations sont toujours un peu du même ordre, on va dire, sans trop en révéler, mais ça semble un peu évident.
Exactement comme dans la vie, parfois, on sait des choses qu'on on ne s'autorise pas
du refoulé et tout ça.
Voilà. Mais... Et même par rapport à ce qu'ils pensent de Mistros, etc., sans doute qu'ils sait déjà des choses avant que les... Enfin, sans vouloir dévoiler.
Oui.
Voilà. Mais je pense que dans la vie, ça peut être comme ça. Parfois, on peut quand même avoir le pressentiment des choses et ne pas s'avouer tant que c'est pas clairement exposé, quoi.
Mais tu trouves pas qu'ils vivent un peu tous trop la même chose,
oui.
quoi?
Oui,
trop pour être crédible, en tout cas.
Moi, je trouve justement que l'une des forces du roman, c'est justement d'amener des espèces de twists comme ça, mais de ne pas en faire des montagnes. Mm-hmm. En fait, il dénoue les nœuds de manière très naturelle.
Je crois que pour ceux qui n'ont pas le bouquin, c'est très nébuleux tout ce qu'on est en train de raconter.
Non, mais c'est vrai. Moi, ce que je veux en dire vraiment, je trouve ce livre vraiment magnifique. Sincèrement, je trouve ça très, très organique.
C'est pour ça que tu as décidé de te coiffer autrement en hommage à tes erreurs d'aiguillage sexuel au cours de ta vie.
Donc tu penses que c'est une coupe de homosexuel, en fait?
Non, mais dis-le,
assume maintenant.
Une coupe de fille.
Ah, non, assume.
Une coupe de vie.
Et ça, je reviens juste là-dessus, mais cette histoire d'erreur d'aiguillage amoureux, là, moi je trouve que c'est une super belle image qui revient pendant tout le bouquin et qui est en fait le vrai sujet du bouquin. C'est, super, c'est vrai que c'est super beau.
C'est particulièrement bien écrit, c'est d'une fluidité. absolue. Ça se lit. Moi, je me suis pas une. C'est très très long. Effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Ça, pour le tout dire, je l'ai terminé juste avant de commencer l'émission. Mais par contre, il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyé, quoi.
Mais parce qu'il y a effectivement cette maîtrise narrative dont tu parlais.
Voilà. Oui. Je pense à des grands romans de Philip Roth ou des gens comme ça qui ont cette espèce de capacité à.
Tu essayes de te faire passer le bouquin.
C'est pas mal. C'est un problème de faire, en fait. Moi, j'ai plus de. Bon,
C'est un roman finalement aussi très politique, hein, parce que les engagements. Oui. Qui sont posés dès le début, comme tu disais, dans la situation de l'époque, d'affirmer certaines choses, son identité sexuelle, avec toutes les questions, les incertitudes qu'il y a derrière. Enfin, il affirme ça très fort. Pour revenir sur l'aspect autobiographique, apparemment, il a un fils qui est homosexuel, John Irving, et il a puisé aussi là-dedans tous les questionnements, sa propre adolescence à lui, et puis de son fils. Je pense qu'il y a une forme de thérapie parfois à travers ces romans.
Moi, je trouve la force du roman, c'est que je ne peux pas imaginer que personne n'ait vécu ce qui est écrit, en fait. C'est ça qui est fort, c'est la manière dont il le narre, c'est exceptionnel.
C'est-à-dire qu'il ne se donne aucune limite, quoi. En prenant un personnage bisexuel, voilà, qui connaît un peu tous les désirs, toutes les formes, il embrasse quand même un monde de fantasmes absolument sans limite, et je trouve que c'est assez fascinant.
Bisexuel,
en fait.
Attiré par les trans, par les travestis.
Voilà. Et du coup, comme il le dit, suspect sexuel, c'est-à-dire qu'il est soupçonné autant par les mecs homo avec qui il a des relations qu'avec les femmes qui. Voilà. Il y a un moment, une scène assez belle où il y a une de ses copines qui lui dit, mais ce qui me terrifie en fait le plus, ce qui m'affole, c'est de ne pas savoir pour qui ou pourquoi tu vas me quitter. Enfin, je pense que ce personnage, oui, est très fouillant. Et je trouve, si je peux encore ajouter un petit truc, que la fin est absolument bouleversante. Hein. Effectivement, l'évocation des années sida, c'est assez beau. Et puis, on a ce personnage vieillissant qui reste là avec tous ses fantômes et ce constat finalement d'un désir qui n'a pas réussi à se poser, quoi, qui reste. Et je trouve que. Oui, c'est assez magnifique.
Moi, si je peux juste réagir là-dessus, tu parlais d'audace, c'est un peu l'idée ici au niveau du fond, Laurent. Mmh. Et je trouve qu'au niveau de la forme, par contre, l'audace est assez limitée. À la fin du bouquin, on dirait qu'il veut absolument boucler toutes les boucles narratives. Ah oui. Et moi, ça me dérange un peu parce que j'ai l'impression qu'il faut absolument que toutes les pièces du puzzle qu'il a un peu éclaté pendant le bouquin se rassemblent à la fin et que tout fasse absolument sens. Mmh. Et je trouve qu'en ça, c'est un peu le contraire du passé qui nous dit justement que la vérité reste toujours un peu cachée. Mmh. Ici, tout doit être signifiant, tout doit être révélé, quoi.
Oui, sauf qu'en fait, la fin reste par essence ouverte puisque son désir l'est aussi et que je sens pas à 80 ans sans doute, il sait toujours pas vraiment où il en est à part cette obsession qui reste pour Miss Frost. Enfin,
c'est un reproche que tu peux lui faire, en même temps, c'est une grande force du bouquin. C'est d'arriver à passer d'une période à l'autre, de passer il a 70 ans à quand il en a 20, et d'avoir une cohérence dans tout ce qu'il raconte.
C'est dehors de bordel un peu narratif, parce qu'il n'arrête pas de dire oh, je suis très embrouillé, je dois pas vous parler de ça maintenant, mais en même temps, c'est super bien amené. Et en fait, on sait qu'il sait très très bien où il va.
Je suis d'accord, et ça fait même plaisir au lecteur qui se dit ah ouais, là, je me sens pas. Et puis, je me sens pas glosé sur le truc quand c'est effectivement.
Quand c'était il y a trop longtemps, il rappelle des phrases qu'il avait dites 200 pages avant, et on se sent investi, d'autant plus qu'il prend souvent le lecteur à partie en lui disant je suis en train de te raconter une histoire, et que ça rend les choses très très attachantes dès le départ du bouquin, je pense.
Mais il lui donne vraiment toutes les clés, et à un moment, moi j'ai l'impression qu'il nous donne quasi trop de clés, on aurait presque envie de pouvoir imaginer des choses, et à la fin j'ai l'impression que je peux plus imaginer grand chose à part les quelques dernières années qui lui restent, peut-être, je sais pas. Mais bon, voilà.
Quand on se demande de quoi elles seront faites quand même.
Bon, avant de noter ce bouquin, je propose à Guy, de sa jolie voix de Cressel, de nous lire un
tout petit extrait. Donc, il vaut mieux attendre, William, m'avait dit Miss Frost. L'heure viendra de lire Madame Bovary quand tu auras vu s'anéantir tes espoirs et tes désirs romantiques et que tu croiras que l'avenir ne te réserve plus que des relations décevantes, voire destructrices. J'attendrai, lui avais-je assuré. C'est très joli.
C'est très beau. Je trouve pas ça du tout représentatif du reste du bouquin.
Toi, tu veux que je te parle de.
Mais c'est un bouquin très cul quand même.
Ouais. C'est très cul, mais c'est pas.
Mais qui passe parce qu'il y a quand même cette vaseline littéraire.
Oui, il
n'y
a pas que ça.
Ouais. Qui,
oh, c'est beau ce que tu dis.
Ce côté justement un peu.
Une vaseline littéraire. Est-ce que je peux m'approprier ça dans
historique.
Une prochaine conversation
historique.
Je te cède les doigts. C'est son côté, mais c'est ce qui faisait la force du monde selon Garp, c'est de traiter de sujets parfois lourds et complètement. Suffocant par une dimension complètement un peu ubuesque parfois des accidents de la vie, quoi.
Et avec une tolérance, je trouve, infinie.
Ça, c'est vrai. Bon, moi je mettrais 7 sur 10 pour cette tolérance infinie, justement.
Moi je m'étais dit que je vais la mettre 6. C'est vrai qu'en discutant, j'ai envie de mettre 7 parce que c'est quand même un plaisir de lecture, mais bon, voilà, moi j'avais quelques réserves.
8 parce qu'il y a sans doute 100 pages de trop.
Oh oui, enfin. Mais enfin, oui. En abonde dans mon sens.
À la fin, j'avoue.
Mais oui.
Moi, je vais mettre 9, parce que c'est vraiment un des romans qui m'a marqué sur ces dernières années. Vraiment.
Eh bien, moi, 8, je suis content de revoir John Evin au sommet de sa forme.
Coucou, John. Bon, comme d'habitude, on va terminer avec le tour de nos coups de cœur du moment. Le mien s'appelle Benjamin Clementine. C'est un chanteur anglais, il a 24 ans, je pense. Il a quitté Londres pour Paris, où il a d'abord chanté dans le métro. Il chante, il compose, il écrit, il joue du piano. Je trouve qu'il y a du Nina Simone en lui. Il a une voix tout à fait hallucinante et parfois le souffle un peu court. Un truc vraiment renversant. Il a eu droit à une page dans le dernier Technicart et une page dans le dernier Focus.
Et quelques heureux élus pourront venir le voir avec nous à l'Archiduc, oui, le 20 juin.
Il y a un concours dans nos pages. Tous ceux qui l'ont vu en live, en tout cas, s'en sont toujours parmi.
C'est... Découvert dans le métro.
Oui, c'est ça.
Comme Tricky.
Il sort son EP incessamment sous peu, mais pour l'instant, voilà, il faut se contenter de YouTube. Allez voir Cornerstone, c'est son premier titre produit avec un clip, Benjamin Clementine, et c'est vraiment très 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 beau. Nico, ton coup de cœur, c'est aussi de la musique.
Oui, c'est aussi de la musique. Je crois que j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'émission, mais ça s'appelle Mendelssohn. Donc c'est un groupe français qui existe depuis presque 20 ans maintenant, qui est toujours assez injustement méconnu. C'est un groupe qui, dans les années 90, était sur le même label que Dominique A, Jérôme Minière, Bertrand Betch, enfin tous ces chanteurs français qui trituraient des trucs un peu pas forcément jolis, comme ça. Et c'était sur un label nantais qui s'appelait Lithium,
enfin,
ce truc pour dépressifs. Donc c'était pas très, très joyeux, en fait, comme musique. Ça ne l'est toujours pas, et ils sortent aujourd'hui, en fait, un triple album qui s'appelle Mendelssohn, hein, donc on peut une certaine sobriété, et qui est vraiment un truc magnifique. Enfin, moi, j'avais plus entendu quelque chose d'aussi fort, d'aussi sombre et intense, même si c'est des adjectifs un peu clichés.
D'aussi fauve,
depuis L'imprudence de Bachung, donc ça fait quand même plus de 10 ans. C'est vraiment, ou depuis Remuer de Dominique A, ou depuis le troisième album de Diabologum qui partageait justement le même label qu'eux à l'époque. C'est vraiment un truc de fou. C'est trois disques. Le deuxième album, c'est une chanson qui fait 54 minutes, où le mec parle tout le temps, parce qu'il parle, chante un peu aussi. En fait, on pourrait faire plein de parallèles avec Fauve, mais c'est le genre d'album, je pense qu'on n'aura pas fini d'épuiser dans un an, et c'est le genre d'album, en fait, qui pourrait devenir une sorte de compagnon de vie, comme ça.
Ah,
voilà, ouais. Je vais me permettre d'être un peu lyrique. Voilà. Ça s'appelle Mendelssohn.
Isaline.
Oui, Mendelssohn, moi, c'est une de mes chansons préférées au monde. C'était 1982, c'est ça ?
1983, Barbara.
Ouais.
C'est sur l'album d'avant.
Oui, c'était sur l'album d'avant. C'est absolument magnifique. Ça durait déjà 8 minutes et quelques.
C'est ça, oui.
Moi, je viens avec un bouquin, évidemment. Un poche. Donc, une réédition, en fait, qui est la réédition du journal intime de Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, qui est évidemment une des plus grandes romancières américaines vivantes, aux côtés, sans doute, de Philip Roth, John Updike. Enfin, John Updike est mort. Mais John Irving.
Coucou, John.
C'est l'auteur de Blonde, hein, la bio fictive de Marilyn Monroe, de Confession d'un gang de filles, qui a été adaptée au cinéma très récemment par Laurent Cantet, des Chutes aussi, qui a reçu le prix Femina en 2005. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier, un exercice que j'aime beaucoup, c'est de pénétrer comme ça le journal intime d'un écrivain, a fortiori quand il est publié de son vivant, puisque Joyce Carol Oates est toujours vivante, et que là, c'est un journal qui porte sur la décennie 73-82. Elle est à ce moment-là en pleine accélération de notoriété, et elle nous donne comme ça accès, quelque part, à son réservoir intime. Elle lève le voile finalement sur son laboratoire de création. Et elle se donne comme ça une sorte de, dans un espèce d'autoportrait kaléidoscopique, si j'arrive à le dire, c'est-à-dire un portrait de femmes écrivains, mais aussi d'amis, de femmes, tout simplement, de femmes féministes, d'épouses, de professeurs aussi, et c'est absolument passionnant. C'est peut-être pas le truc à lire effectivement d'un coup, parce que c'est quand même 700 pages, mais je pense à un bon bouquin à avoir quand même sur sa table de nuit, dans lequel on peut aller puiser des choses sur l'écriture, sur la littérature, sur la vie. Je crois que c'est un genre de bouquin qui aide
à
vivre, effectivement.
Oui, voilà. Ouais, c'est pareil. Enfin, on n'en sort pas.
C'est chez Point.
Donc, Guy, tu passes la parole au chef. Voilà.
Eh bien, moi aussi, j'embraye sur un roman. C'est le dernier livre de Stewart Onan, dont le titre est Les Joueurs, qui avait écrit Speed Queen à l'époque. Emily, plus récemment, un écrivain américain vraiment intéressant, qui n'a pas l'aura des Philip Roth et autres, mais qui est vraiment en division, en première division, mais juste en dessous de ceux-là, et qui arrive à saisir avec cette touche américaine un peu la complexité psychologique, voilà, avec toujours parfois des fresques et parfois sur des choses beaucoup plus ténues. Et ici, il s'intéresse à un couple qui est un couple de jeunes retraités, mais qui est au bout du rouleau. Enfin, l'un est retraité, mais l'autre a perdu son boulot et ils sont un petit peu sur la marche professionnellement. Et ils vont, à l'initiative du mari, aller de l'autre côté de la frontière au Canada pour aller voir les chutes du Niagara et passer un long week-end pour essayer de se rabibocher, espère-t-il. Et alors, ils tombent dans un univers qui est vraiment génial. Je crois que c'est le roman le plus photographique que j'ai vu, pas cinématographique, mais photographique, parce qu'ils tombent dans un univers de casino, mais avec que des vieux devant les machines. Et c'est vraiment succulent, le dessin, les images qui surgissent dans ce livre, avec cette nature derrière qui explose, qui est cette liberté, et tous ces gens, parce que c'est en plein hiver, qui sont retranchés dans ce monde artificiel, faussement luxueux, toc, où tout le monde fait la même chose, tout le monde s'ennuie, espère une richesse qui vient jamais. Et donc ce couple gravite là-dedans et va s'enfoncer de plus en plus. Et donc, c'est très photographique. On a un peu l'impression d'avoir des images de Martine Parr où on saisit comme ça le côté truculent, mais un peu pathétique de la vie. Et c'est vraiment délicieux. C'est pas très long, mais ça se...
Tu me rappelles le titre ?
Les joueurs. Stewart Tonal.
Un...
Ouais, l'édition de l'Olivier. Oui.
Guy, ça va aller maintenant ? Tu vas pouvoir parler ?
Ça va, j'ai demandé à Nicolas une info qu'il n'a absolument pas pu me donner. Donc, c'est pas grave, on va faire sans. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Banshee. C'est une série, en fait. Alors, j'ignore si c'est une série FX ou si c'est une série Starz, je ne me rappelle plus du tout. Je suis mea culpa. Mais Banshee, c'est une série complètement bourrine. Absolument. C'est
vraiment. Alors, ça doit être Starz.
Ou FX, je veux dire, quelque part, ça pourrait très bien être
non,
FX aussi. Mais curieusement, je pense qu'il y a Alan Ball qui est parmi un peu les producteurs, Alan Ball qui était un peu à la tête de Six Feet Under, et qui ici, enfin, c'est pas lui exactement qui a créé la série, mais en tout cas, c'est une série qui parle d'un ancien cambrioleur de génie qui passe 15 ans en prison avant d'en sortir et d'essayer de retrouver son ex-copine qui faisait les coups avec lui et qui, depuis 15 ans, s'est remarié dans un petit patelin de l'Amérique profonde. Donc il va essayer de la retrouver. Au moment où il la retrouve, le shérif local meurt et ce voleur va prendre son identité. Il va devenir shérif local. Il n'y a aucune vraisemblance. Le scénario est complètement foutraque. Il s'autorise tout, en fait. Il y a de la violence, de la baisse dans tous les sens. Et ça se tape, ça se cogne, hein, du sang. Mais c'est pas vraisemblable. Mais par contre, c'est prenant. Et c'est mon coup de cœur parce que...
C'est un peu
mon
Game of Thrones à toi.
C'est un peu mon Game of Thrones à moi. Voilà, c'est vrai, en plus, quelque part. Parce que j'ai vraiment eu envie, chaque fois, de regarder l'épisode suivant pour me demander ce qui pouvait bien arriver d'encore plus fou à ce type. Donc voilà, ça s'appelle Banshee, Banshee. Et voilà, je vous le conseille. C'est la première saison qui vient de s'achever. Donc voilà.
Ben merci. Bon, ben voilà. C'est tout. On a fait le tour des buzz, des ramdam, des hype du moment. C'était nos opinions profanes ou patentées. À vous maintenant de vous faire la vôtre et n'hésitez pas à la partager avec nous sur notre page fan facebook.com/focusstore. Et lisez-nous évidemment en version papier toutes les semaines avec le Vif, l'Express et le Week-end. Merci à l'équipe. C'était vraiment gentil d'être venu.
Merci Myriam.
Et puis, à bientôt pour la toute dernière de l'année. Bisous, bye bye. Au les cœurs, au les cœurs. Ciao.
Ciao.